une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, nous allons passer et penser en revue les principaux événements de ces derniers jours avec Philosophie, ce samedi 16 novembre. C'est en effet un philosophe qui va nous accompagner cette semaine en la personne de Frédéric Worms, avec lequel nous allons parler d'humanisme vital. Il m'a semblé intéressant de mettre cette idée, cette notion, cette façon de voir le monde, cet idéal, à l'épreuve de l'actualité. Une actualité qui va nous conduire en Bolivie, à Hong Kong, mais aussi en France, en Guinée ou au Soudan du Sud, par exemple. Une semaine d'actualité à écouter aussi sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio, www.rfi.fr, l'application RFI Pure Radio et à la page Une semaine d'actu de Facebook. Bonjour Frédéric Worms.
Bonjour Pierre-Édouard Deldic.
Je suis très heureux de vous retrouver à ce micro. La dernière fois c'était dans Idée, vous reviendrez dans Idée, c'est sûr. Vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'école normale supérieure, normale sub dont vous êtes directeur adjoint d'ailleurs.
Pour les lettres et sciences sociales.
Pour les lettres et les sciences sociales. Alors allons dans le vif du sujet sans tarder Frédéric, car il y a une grande curiosité de la part de nos auditeurs qui nous ont écrit cette semaine pour savoir ce que vous entendiez par humanisme vital. Votre livre s'intitule « Pour un humanisme vital, lettre sur la vie, la mort et le moment présent ». Il s'agit de lettres que vous écrivez à une inconnue. Pour vous, qu'est-ce que l'humanisme vital ?
L'humanisme vital, c'est un humanisme au sens assez traditionnel du mot, c'est-à-dire une pensée qui assume le fait qu'il y a quelque chose de spécifique dans l'humain et même quelque chose qui importe dans l'humain, quelque chose qu'on doit respecter. Mais dans le mot vital, c'est pas seulement l'idée que ce serait donné comme quelque chose d'évident, c'est plutôt au contraire l'idée que l'humain, la spécificité de l'humain parmi les vivants, dont nous faisons partie, c'est d'avoir d'affronter des dangers vitaux encore plus nombreux et différents que les autres vivants. J'entends vital au sens un peu, non pas de l'élan vital, comme certains grands philosophes que j'ai un peu travaillé.
Que vous connaissez bien, Bergson.
Mais plutôt au sens de l'urgence vitale. Et il se trouve que, pour moi, ce qui est vital, c'est aussi ce qui est mortel, et que finalement, les humains sont des vivants comme les autres, ne veulent pas mourir, mais pour leur risque de mort, ils en ont un peu plus que les autres. Sont vitaux pour les humains, non seulement les risques organique, le fait de devoir se nourrir, de devoir s'abriter du froid, etc. Mais aussi la violence entre les humains, un certain nombre aussi de dimensions de relations entre les humains, les êtres humains. Il y a certains grands animaux aussi, mais de manière spécifique, les savants le montrent. Un nourrisson humain, par exemple, ne peut pas survivre sans un peu d'attachement. Et puis aussi, il nous faut un peu de justice et des institutions pour éviter les conflits. Donc un humanisme vital, c'est pas plus facile. C'est peut-être plus difficile que les autres humanismes parce que il faut affronter tous les dangers vitaux qui menacent les humains. Et ils sont pas tous, d'ailleurs, compatibles en même temps. On va y revenir peut-être, mais quand il y a une urgence vitale concrète, par exemple, s'il y a un incendie, peut-être qu'on méprisera la justice. Mais en même temps, si on méprise la justice, les humains meurent aussi, mais pas forcément de froid, mais de torture.
C'est-à-dire que tout est lié et vous êtes, Frédéric Worms, un vitaliste critique.
Alors, vitalisme critique, pour moi, c'est un peu la même chose vue par l'autre bout, c'est-à-dire c'est la définition, on peut prendre à l'un extrême du vivant, il y a les humains qui affrontent des dangers vitaux, mais en même temps, tous les vivants, pour moi, se définissent par la lutte contre le contraire de la vie, qui la menace toujours, qui est la précarité mortelle, et j'appelle vitalisme critique, en effet, une philosophie, là aussi, assez simple, qui fait de la vie un principe, c'est ça qu'on appelle vitalisme. Qui peut pas la réduire à autre chose ou même la hausser au-dessus, par exemple sur l'esprit ou l'âme, la vie c'est le vivant, mais critique, c'est-à-dire toujours opposé à son contraire. Et je crois que c'est extrêmement important, et critique aussi c'est effectivement distinguer, c'est ce que veut dire crisis, la crise c'est la distinction parfois entre la vie et la mort, mais aussi entre les vivants. Et donc un vitalisme critique, c'est un vitalisme qui peut distinguer entre les vivants. Et que sont les humains ? Ils sont plus fragiles, ils sont aussi plus responsables, et je pense que pour sauver les autres vivants, il faut passer par l'humain. C'est comme ça, c'est notre fragilité qui fait notre responsabilité.
Et c'est pour cette raison que je voulais vous exposer en quelque sorte, Frédéric, à l'actualité, parce que cette thèse, votre façon de concevoir l'humanisme est très intéressante pour comprendre aussi ou avoir une version, une explication de l'actualité.
Ce serait vrai peut-être en général, quand on pense qu'on défend une thèse philosophique, effectivement, on peut la vérifier dans nos nos vies, dans nos vies individuelles, dans les vies collectives. C'est peut-être vrai particulièrement en ce moment, puisqu'il me semble qu'en ce moment, le vivant est un peu notre toile de fond, qu'il y a des catastrophes écologiques, que ça peut appeler à nos responsabilités, parfois aussi nous faire peser une pression, un chantage même sur notre désir de justice. Est-ce que c'est juste survivre? Est-ce qu'on peut encore construire une démocratie? Est-ce qu'on peut encore se respecter mutuellement? Donc je crois qu'effectivement, l'épreuve du présent est particulièrement importante aujourd'hui pour tout le monde, mais en particulier, on a besoin d'une philosophie. Je pense qu'on ne peut pas répondre. En fait, on a besoin d'une toile de fond, parce que philosophique, d'une pensée, de savoir ce qu'est l'humain aujourd'hui. L'humain se transforme. Nous sommes des vivants qui avons à la fois inventé des techniques nouvelles, et en même temps rencontrons aujourd'hui des fragilités nouvelles, et où la morale et la politique ne peuvent pas disparaître. Et donc, oui, le moment est particulièrement critique.
Sept jours dans le monde.
Partons pour la Bolivie. Nous commençons notre voyage, Frédéric. Nomination d'un gouvernement, convocation d'élections. Dans un pays encore secoué par des manifestations, la présidente par intérim, Jeanine Agnès, a tenté mercredi de combler le vide politique laissé par le départ d'Evo Morales, qui s'est déjà dit prêt à rentrer pour apaiser, dit-il, la situation. Il est réfugié désormais au Mexique. Correspondance d'Alice Campagnol.
Les partisans d'Evo Morales s'étaient réunis hier dans le centre-ville de La Paz pour exprimer leur colère face à ce qu'ils appellent un coup d'État. Leur dirigeant a été forcé par la rue à démissionner, lui qui avait été élu démocratiquement en 2014 avec plus de 60% des suffrages. Aujourd'hui, les soutiens de l'ancien président, souvent humbles et majoritairement d'origine indigène, se sentent plus seuls que jamais.
Sincèrement, il n'y a personne pour nous représenter. La voix du peuple est partie, celui qui nous a toujours représentés n'est plus là auprès de nous. Il n'y a personne. Qui va dire notre vérité ?
Le regroupement était pacifique après les violences qu'a vécues La Paz pendant deux jours. Violences commises par des groupes qui soutiennent aussi l'ancien président venu semer la terreur dans la ville. Mais les manifestants aujourd'hui voulaient montrer un autre visage des mouvements indigènes et paysans. Ils sont descendus dans la rue avec des demandes précises.
Ce que nous voulons, c'est un gouvernement neutre et provisoire. Et si cette Agnès veut être présidente, on ne va pas l'accepter.
Mais c'est bien Jeanine Agnès du parti Unité Nationale de l'opposition qui s'est déclarée présidente par intérim de la Bolivie hier soir. Et la nouvelle occupante du fauteuil présidentiel n'a pas l'appui des parlementaires du MAS, le parti d'Evo Morales, ni de ses militants.
La situation est évidemment à suivre dans nos journaux. Après l'Amérique latine, l'Asie, Frédéric Worms, Hong Kong a vécu de nouvelles journées de chaos avec notamment une nuit d'affrontements violents dans une université entre manifestants pro-démocratie et forces de l'ordre. Désormais, entre les manifestants et la police, la haine est apparue. Correspondant jeudi de Florence de Changy.
Presque à chaque fois que les policiers apparaissent sur une scène de rassemblement illégal, les Hongkongais les couvrent d'insultes. Et depuis quelques jours, ces rassemblements illégaux se sont multipliés. Ils ont même lieu tous les jours à l'heure du déjeuner dans le quartier historique de Hong Kong, symbolique de la place financière internationale centrale. Cette jeune femme, assistante sociale, explique sa colère.
Rubbish. Je les traite de déchets. Ce ne sont que des déchets.
Vous vous adressez à la police, n'est-ce pas ?
Oui, on leur crie dessus. Ils sont complètement hors de contrôle. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la violence pour essayer de maîtriser la situation. Mais en fait, ils ne font que l'aggraver. On en a tous vraiment assez.
Juste à côté d'elle, un homme plus âgé demande en cantonais à ceux qui parlent mandarin, sous-entendu les Chinois du continent, de se dévouer pour nettoyer la chaussée. Il fait référence à la suggestion jugée grotesque du numéro 2 du gouvernement Matthew Cheung que les fonctionnaires aident au dégagement des rues jonchées de pavés et de débris. Vendredi, les manifestants ont accepté de rouvrir partiellement une des autoroutes importantes du territoire, la Tolo Highway, pour 24 heures seulement. Il menace de la refermer si Carrie Lam, la chef de l'exécutif, ne promet pas de maintenir les élections de district prévues dans une semaine.
« À suivre donc aussi dans nos journaux. J'ajoute que le président chinois Xi Jinping a prévenu que les violences à Hong Kong menaçaient de remettre en cause le principe même d'autonomie de l'ancienne colonie britannique. Suite d'une semaine d'actualité, Frédéric Vorm, vous avez écouté ces deux reportages avec une extrême attention. Dans les deux, on entend le cri des peuples.
Oui, on entend aussi le cri des peuples pour la démocratie, c'est-à-dire pour la justice entre les humains dans une même société. Pour moi, l'humanisme vital dont on parlait explique pourquoi la démocratie fait partie des besoins vitaux de la société politique, de la société humaine. Le politique ne lutte pas seulement contre la mort en général, les dangers vitaux en général. Et c'est toujours un danger de le réduire à ça. Et par exemple, c'est le chantage aujourd'hui d'un régime comme la Chine, je le dis très clairement, qui dit non seulement qu'il y a un seul parti, mais qui dit, ben voilà, l'économie d'abord, qui en fait trompe les aspirations à la justice par la satisfaction des besoins économiques, oui. Du progrès économique et d'un certain capitalisme qui marche très bien, et on ne peut que s'en réjouir du progrès économique. Mais en même temps, on voit bien que les humains n'ont pas seulement besoin d'avoir les ventres nourris, mais, et de ne pas mourir de froid ou de faim, ce qui est fondamental bien sûr, mais aussi de se voir concilier leurs aspirations contradictoires, conflictuelles, leurs conflits intérieurs dans un régime politique qui permet de les exprimer. Et c'est pourquoi la démocratie est aussi vitale que l'économie l'écologie ou la médecine, et qu'elles ne peuvent pas vivre les unes sans les autres. Et donc je crois que en particulier les étudiants de Hong Kong font cette revendication. Ils ont conscience que, au fond, s'ils ne sont pas respectés dans leur propre pays, ce qui est menacé, c'est la coexistence démocratique dans des espaces beaucoup plus vastes, dans la Chine tout entière. Peut-être aussi des modèles qui sont en train de s'imposer dans le monde. On parle de populisme, mais je pense que le régime chinois n'est pas réellement populiste. En fait, il est beaucoup plus dictatorial d'une façon très classique. Les opposants, les minorités d'une manière générale, les dissidents, sont de plus en plus condamnés. Je me souviens de la mort du prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, oui. Qui quand même, dont la femme est aujourd'hui en exil. Je crois qu'aujourd'hui, nous retrouvons le sens du mot démocratie comme aussi vital, justement, que l'économie, que la faim ou la soif en Bolivie. Chaque pays a sa situation. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une éducation politique mondiale de l'humanité. Et je crois que c'est vraiment un apprentissage douloureux, un rappel douloureux des urgences démocratiques.
D'autant, Frédéric, que cette année 2019, on peut commencer à tirer des bilans, faire un bilan. Cette année a été marquée par des soulèvements, justement, pour la démocratie, pour de meilleures conditions de vie. Là, je pense aussi à l'Algérie, je pense également au Soudan. Cette année-ci a été marquée par ce phénomène, cette quête de démocratie.
C'est-à-dire, il y a deux moyens de répondre à des régressions ou à des fragilisations de la démocratie. Il y a des moyens institutionnels. On voit bien que quand une démocratie a ses cadres qui tiennent, s'il y a des transgressions ou des menaces, on peut faire appel aux institutions. Pour l'instant, c'est encore le cas, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre ou en Espagne, où il y a des pays où voilà, le système politique, le jeu, c'est compliqué. On fait appel à des contre-pouvoirs. Mais quand même, les institutions canalisent encore, peuvent répondre à ce qui peut les fragiliser, peuvent même progresser. En France aussi, on peut l'espérer. Par exemple, quand il y a eu des affaires de corruption, ou en tout cas des hommes politiques compromis, ben on a créé une haute autorité, etc. On a encore des moyens institutionnels. Mais quand il n'y a pas les moyens institutionnels, il reste en effet la manifestation qui elle-même doit être en partie protégée par les institutions. La rue, dans un pays comme la France, fait partie des espaces publics, est une institution finalement, la manifestation aussi. Quand ceux-là même sont fragilisés, il reste la violence, et je pense que d'une certaine façon, elle est toujours le signe que non seulement la démocratie a des problèmes, parce que ça c'est toujours le cas, mais qu'elle n'a plus les moyens, les ressources pour les affronter. Et là, je crois que ça nous rappelle précisément qu'on ne peut pas fonctionner sans satisfaire ce cadre de justice dont on a besoin.
Alors, en tout cas, ces manifestations dans le monde entier intéressent nos auditeurs. C'est le cas de Kevin à Lubumbashi, qui va même jusqu'à se demander pourquoi il n'y a pas de réaction contre les crimes à Hong Kong, qui sont, selon lui, des crimes contre l'humanité. Hippolyte relève aussi cette situation tendue en Bolivie, en Hong Kong. On pourrait parler aussi du Liban. Bon, mais je vous propose, Frédéric, de partir maintenant pour les États-Unis, justement, pays dont vous faisiez allusion, auquel vous faisiez allusion il y a un instant, car un témoin clé, un diplomate, a décrit mercredi un Donald Trump obsédé par sa campagne de réélection, au point de faire pression sur l'Ukraine lors des premières auditions parlementaires télévisées. télévisé, ça c'est important, dans l'enquête pour déterminer si le président américain doit être ou non destitué. Correspondance mercredi d'Anne Corpé à Washington.
6 heures d'audition publique pour aider les Américains à juger la validité des accusations portées contre le président. Les deux témoins, deux diplomates de haut rang, ont chacun livré leur version des faits avant d'être soumis au feu roulant de questions des représentants, avec un moment clé, celui où le chargé d'affaires américain en Ukraine révèle un nouvel élément à charge contre Donald Trump. Bill Taylor.
En présence d'un de mes collaborateurs dans un restaurant, l'ambassadeur Gordon Sondland a appelé le président Trump pour lui relater ses réunions à Kiev. Mon collaborateur pouvait entendre le président interroger l'ambassadeur sur les enquêtes. Après le coup de fil, mon collaborateur a demandé à Sondland ce que le président pensait de l'Ukraine et il a répondu que le président était plus intéressé par l'enquête sur Biden que Rudy Giuliani tentait de pousser.
Vous n'avez jamais rencontré le président, vous n'avez jamais parlé à son directeur de cabinet et vous êtes leur témoin clé, la star des témoins, rétorque le représentant républicain Jim Jordan. Je ne me considère pas comme une star. Je ne suis pas là pour prendre parti, répond Bill Taylor. Et face aux contre-attaques des républicains, il ajoute « Je ne suis pas là pour décider de l'acte d'accusation du président. Ça, c'est votre travail. »
4 manifestants ont été mortellement touchés jeudi à Bagdad par des grenades lacrymogènes lancées à hauteur d'homme par les forces de l'ordre. Au total, plus de 330 personnes ont été tuées dans les manifestations et les violences qui secouent l'Irak, ce pays, un des pays les plus riches en pétrole du monde, mais aussi l'un des plus corrompus. Les manifestants, les opposants s'organisent donc, place Tahrir, notamment au cœur de Bagdad. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial Sami Bourelifa.
Midi, place Tahrir, seule une cinquantaine d'étudiants manifestent encore. Drapeau irakien sur les épaules, Malek Hussein, futur ingénieur, semble déterminé à poursuivre la mobilisation.
À cause de la répression, les gens ont abandonné le combat. Nous subissons également des pressions. Des agents de la sécurité nationale nous ont menacés, ils sont venus à la fac et nous ont même violentés. Ils nous ont dit « les manifestations, c'est terminé, mais leurs menaces ne m'arrêteront pas ».
Le soir, les renforts arrivent et la foule grossit. Zaydoun est aussi étudiant, mais lui a choisi de manifester après les cours seulement.
Bien sûr qu'il y a moins de monde dans les rues. On nous a menacés. Ils nous ont dit, si vous ne revenez pas à la fac, vous serez exclus. Et ils ont dit aux fonctionnaires qui manifestaient qu'ils risquaient d'être mis à la porte. Alors on n'a pas le choix.
En fin de journée, les tirs de gaz lacrymogène reprennent et avec eux le balai des ambulances transportant les blessés.
Là aussi, ce sont les cris de la rue pour la démocratie et pour aussi renverser un régime jugé corrompu. Et aux États-Unis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric Worms, c'est la contestation, mais contenue dans des institutions solides, en l'occurrence le Congrès.
Alors, je voudrais faire une remarque sur chacun des deux cas qui sont très différents, les États-Unis et l'Irak, mais peut-être d'abord en embrayant sur la question de votre auditeur que vous aviez cité, sur la question de la solidarité mondiale. Au fond, aujourd'hui, on peut être frustré, en effet, que dans les rues des pays plus démocratiques que les autres, jamais parfaitement démocratiques, mais avec un peu plus de règles démocratiques en vigueur, il n'y a pas des gens qui sortent tous les jours pour Hong Kong, pour l'Irak, pour le Liban, pour l'Algérie, pour la Syrie, de tous les pays. On peut en être frustré, mais je crois que c'est effectivement très important. Je crois que ce qui est en train de changer aujourd'hui par rapport à une autre époque, c'est la manière dont la démocratie s'universalise. Il y a eu un moment, et ça a été catastrophique, des pays occidentaux qui ont voulu exporter la démocratie, parfois par les armes. Aujourd'hui, ce qui
en
se
Irak,
passe...
justement.
Exactement, j'allais en dire un mot, justement. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une solidarité plutôt des populations qui passent par les canaux d'information, ce qui deviennent absolument cruciaux, parce qu'il y a de la désinformation chacun dans son tuyau, et donc il est fondamental de s'informer. Et il y a ce que j'appelais justement il y a un instant une éducation démocratique mondiale, qui est la condition aussi de cet humanisme vital dont on parlait, qui est global. Et je pense d'ailleurs que pour les dangers climatiques, il faudra évidemment une opinion publique mondiale, et c'est à ça qu'on assiste peu à peu. Mais évidemment, avec une solidarité qui n'a pas forcément les relais institutionnels. Comment aider les uns et les autres? Il y a eu une époque où il y avait l'humanitaire, Médecins sans frontières. Est-ce qu'il faut faire des démocrates sans frontières? Je crois qu'on n'est plus dans l'exportation, mais il faut effectivement soutenir l'information, permettre la discussion. Entrer en discussion, je crois, mutuellement.
Ça, c'est au cœur de votre livre.
Je crois c'est parler, voilà, oui, la parole entre les humains me paraît fondamentale.
Vous parlez beaucoup de dons, de confiance aussi.
Voilà, et je crois que l'opinion publique mondiale, c'est vraiment aussi des relais majeurs contre les réseaux qui nous séparent. Construire des réseaux qui nous relient vraiment et qui relient les démocrates entre eux parce que on ne peut pas les soutenir en exportant un modèle, mais plutôt en soutenant des résistances et des discussions. Alors, ce qui est très frappant dans les deux cas, moi, ce qui me frappe beaucoup aux États-Unis, c'est ce qu'on a entendu, c'est-à-dire la manière dont les institutions peuvent se relier sans se confondre. On a un débat politique et tout à coup, ça devient juridique. Et on voit bien que il faut pas confondre les deux ordres. Bien sûr, ce sont les démocrates qui saisissent les institutions juridiques, mais c'est pas pour autant que la procédure contre Donald Trump va être politisée. On voit bien la tentation de la défense, c'est de dire c'est entièrement politique. Mais on voit bien qu'on est entré aussi dans une procédure qui a ses règles, qui est neutre et qui vise justement, c'est le but des humains dans ce bas monde, qui vise justement à éviter que le conflit tourne à la guerre. Donc on est à une procédure neutre. Et donc les uns disent on est passé du politique au juridique. Je crois qu'ils doivent le prouver, bien sûr, mais qu'ils ont raison. Et que les autres disent, mais non, c'est du faux juridique, ça reste du politique. Et eux, je crois, moi, je suis très net maintenant, quand on ne croit plus aux institutions, il n'y a qu'une alternative, c'est la guerre. Et donc, je crois vraiment qu'il faut appeler les uns et les autres à dire, maintenant, on est dans des institutions, dans une procédure. Et on n'est plus dans une campagne. Et ça, c'est fondamental. Et en Irak, c'est ce que vous disiez, je crois que c'est admirable parce que j'allais presque dire, on est presque heureux, un peu comme au Liban, je crois, d'avoir des manifestations pour la démocratie des uns et des autres et non plus une guerre des uns contre les autres dans ces pays-là. Bien sûr, c'est des nouvelles terribles qui nous viennent d'Irak, mais elles sont quand même moins terribles, j'allais dire plus proches de nos conflits à nous que les nouvelles qui nous parvenaient d'Irak dans les 20 dernières années. Donc au fond, je ne m'en réjouis pas. Mais je pense qu'il y a une sorte de contemporanéité retrouvée du politique, du social, de l'opinion publique qui revient partout et dont on peut espérer qu'elle dépasse les conflits meurtriers entre les uns et les autres, mais vise des objectifs communs.
Alors, en lisant votre livre, Frédéric Worms, pour un humanisme vital, je pensais à la célèbre phrase au livre de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, et je me suis dit que votre livre est aussi une manière de contourner ou d'affronter pacifiquement, puisque il s'agit d'humanisme vital, cette vague de populisme qui progresse et qui inquiète d'ailleurs un de nos auditeurs qui nous écoute au sud-ouest du Tchad à Pala.
Toutes les philosophies de la fin de l'histoire oublient la dimension de conflictualité entre les hommes qui a toujours été au cœur de l'histoire et qui l'est aujourd'hui plus que jamais. Et je crois que en même temps, donc aujourd'hui, on est au cœur du sujet, on se voit rattrapé par l'essence même du politique. Certains pensaient qu'il n'y avait plus qu'à s'occuper de l'économique, justement, du progrès médical, économique. On est rattrapé par la conflictualité humaine. On est aussi rattrapé, et j'allais dire presque heureusement, par des dangers vitaux communs. Et donc, finalement, au fond, moi, j'ai un optimisme du négatif. Je pense que c'est la réalité des dangers qui nous rappelle à nos responsabilités. Quand on nie les dangers, en fait, je crois qu'on les refoule et on refoule nos conflits. Et donc, ils sont peut-être encore plus violents. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est les dangers qui nous rappellent à la justice.
Moi, en lisant toujours ce livre, je me disais qu'il concernait particulièrement les nouvelles générations, les jeunes gens de 20, 30 ans aujourd'hui, qui ont une autre conception du pouvoir, de la politique, de l'engagement. Vous prenez, par exemple, ce gouvernement mondial, ce dialogue permanent. Eux, cette nouvelle génération qui est souvent dans la rue d'ailleurs, quelles que soient les latitudes, vous rejoint en fait.
Oui, alors en même temps, j'espère que justement on peut se retrouver sur ces points très précis parce que plutôt qu'un gouvernement mondial, par exemple, moi je reste assez mesuré, je pense qu'il faut des institutions mondiales. mais que les conflits entre les sociétés, les pays étant ce qu'ils sont, assez profonds, assez violents, et avec des légitimités. Pourquoi est-ce que des pays qui n'ont pas accédé au développement économique n'y accéderaient pas, avec des revendications parfois légitimes? Je pense que les institutions qui permettront la coexistence mondiale seront mondiales, mais seront minimales. Par exemple, une taxe, mais minimale, mais globale, sur les transports ou bien sur les transactions financières. Et je crois qu'il faut lutter pour des institutions globales, mais minimales. L'idée d'un gouvernement mondial me paraît une excessive, justement. Et il y a aussi des tentations à aller, face aux dangers globaux, vers des mesures globales. Oui. Par exemple, des gens qui vont dire « il faut sauver la planète » et parfois sacrifier la démocratie. Moi, je suis plutôt dans l'idée que pour concilier nos exigences globales, sauver la planète, mais aussi respecter la justice, il faut des lignes de crête, créer des institutions qui auront quelque chose de frustrant, mais qui seront réelles. Aujourd'hui, voilà, il y a un tribunal pour juger les génocides. Il est très fragile. Les génocides sont des crimes monstrueux, des exterminations de masse. C'est arrivé en Afrique il y a 25 ans. Mmh. Ça arrive encore, malheureusement. En tout cas, des discriminations massives. Et on a créé des instruments très fragiles. Je crois qu'il faut lutter pour ces instruments, pour les renforcer, sans tomber dans la fiction qu'on va pouvoir créer justement une solution miracle. Mais luttons vraiment pour des moyens réels. Et en effet, je crois que les ONG, les étudiants, les jeunes du monde entier le savent. On est mûrs. Je crois qu'ils sont plus mûrs que nous. Moi, j'apprends beaucoup de mes enfants, de mes étudiants et des jeunes.
D'autant qu'il y a cette fameuse urgence climatique, cette dimension universelle, j'allais dire, de cette question. Et vous mettez en avant dans votre livre aussi ce principe de responsabilité analysé dans un livre célèbre que vous recommandez évidemment de Hans Jonas.
Oui, bien sûr, il y a cette question climatique, mais là aussi, et donc elle est fondamentale et elle nous remue en profondeur. Elle nous rappelle que nous sommes des vivants, mais on comprend bien que voilà, Hans Jonas parfois allait trop loin, était prêt à suspendre la démocratie lui-même pour nous rappeler à la Terre, pour nous faire revenir sur Terre. Il s'opposait notamment à une philosophie de l'histoire du progrès qui oublierait qu'elle a des
le
conditions,
sens de l'histoire.
Que le progrès a des conditions. Ouais. Que, par exemple, pour nous libérer par l'économie, il faut des machines, que les machines peuvent détruire la Terre. Mais je crois qu'il oubliait que pour lutter contre les risques climatiques, il faut aussi des minima démocratiques. D'abord, il faut la liberté d'informer. Sinon, les gouvernements peuvent nous masquer les faits. Il faut la liberté de discuter. Il faut la liberté de la critique. Et je crois que les manifestants à Hong Kong ou ailleurs luttent pour ces libertés minimales, au fond. Et les gouvernements totalitaires, c'est eux qui sont dans le global et dans l'excès. Les manifestants démocratiques sont toujours les plus courageux parce qu'ils luttent contre tous les dangers et demandent le minimum vital dans tous les domaines, y compris évidemment sociaux, écologiques. Parce qu'aujourd'hui, on parle du global, mais ça s'infiltre partout, c'est l'air que nous respirons, c'est l'eau que nous buvons, c'est les corps que nous sommes.
En tout cas, il faut lire aussi Hans Jonas, quand même.
Absolument, il faut absolument le lire parce que, justement, il a compris que l'homme se définissait par la responsabilité.
Sept jours dans le monde.
Et arrêtons-nous un instant en France, Frédéric Worms. Des médecins aux aides-soignantes, des doyens aux étudiants, c'est un hôpital public à bout de souffle qui a manifesté jeudi pour exiger davantage de moyens et de reconnaissance, ainsi que d'effectifs, pendant que le gouvernement peaufine, dit-il, un plan d'urgence très attendu. Reportage à Paris d'Aram Bengue.
Soignants épuisés, patients en danger, ou donnez-nous des moyens pour faire notre travail, quelques slogans que l'on pouvait lire sur les pancartes de plusieurs milliers de manifestants dans la capitale. Tous les secteurs de l'hôpital ont répondu au rassemblement pour réclamer des moyens, comme l'indique Sophie Croisier, infirmière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Donnez-nous des moyens pour qu'on puisse assurer nos missions dans des conditions acceptables, et pour les patients et pour les soignants. Ça fait des mois, mais ça fait des années qu'on dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et en fait, n'avoir rien fait pendant des années, il y a une responsabilité collective, c'est clair.
Pascal Como, lui, est logisticien à l'hôpital Necker. Il redoute les fins d'année.
Maintenant, à la fin d'année, nous n'avons plus d'argent pour pouvoir commander des seringues parce que les fournisseurs ne sont pas payés. Les sociétés nous appellent en disant
on ne nous paye pas, donc là on ne vous envoie plus de matériel. Et c'est grave.
8 mois que la crise à l'hôpital perdure, mais Olivier Goulet, chef de service et membre du collectif Interhôpitaux, veut bien faire confiance à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Je fais relativement confiance, même assez confiance à la ministre, qui est au fond une de nos collègues. Et je pense que Agnès est certainement la mieux placée au gouvernement pour connaître la réalité du terrain à l'hôpital, pour réfléchir et proposer.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn a promis un plan de soutien qu'elle dévoilera mercredi prochain.
L'université Lyon 2, où était inscrit le jeune homme qui s'est immolé la semaine dernière, a été de nouveau fermée mercredi après des blocages menés par des étudiants qui protestaient contre la précarité. Et mardi, ce sont les étudiants de Paris qui ont manifesté devant le CROUS d'Île-de-France. Le CROUS, ça veut dire Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires. Reportage de Laurence Théo.
De l'émotion et des revendications en cette fin d'après-midi sur le parvis du CROUS de Paris. Gaspard est étudiant en histoire. Il pense que la précarité tue.
L'étudiant qui s'est immolé devant le CROUS. Et ce qu'il dénonçait, c'est la précarité étudiante. La précarité étudiante, elle se symbolise par le CROUS qui est censé délivrer les bourses et qui ne le fait pas ou qui le fait en retard ou qui le fait à des seuils vraiment dérisoires. Même l'échelon 7, c'est 450 euros. Et quand on regarde les dépenses moyennes des étudiants par mois, c'est vers 500-600 euros.
Mathilde a dû renoncer à poursuivre ses études, faute de moyens financiers suffisants. Aujourd'hui, elle travaille, mais elle tenait à apporter son soutien au jeune étudiant qui a tenté de s'immoler à Lyon.
On est là pour porter les revendications qui lui tenaient à cœur, c'est-à-dire pouvoir étudier dans des bonnes conditions, avec des moyens. Régulièrement, on entend des histoires d'étudiants très isolés qui meurent de faim dans des CTU, comme l'étudiant malgache l'an dernier dans la CTU de Lille. Et eux, ils meurent dans le silence. Et du coup, voilà, aujourd'hui, le camarade, il nous a donné des consignes politiques et on est là pour les faire respecter, les faire appliquer et nous faire entendre.
Si certains rassemblements devant les CROUS de province ont été émaillés de violence, la manifestation parisienne, elle, s'est déroulée dans le calme.
Frédéric Worms, le film J'accuse, la presque reconstitution de l'affaire Dreyfus par Roman Polanski est sorti en salle mercredi dernier sur fond de polémique alors que le réalisateur est visé par une nouvelle accusation de viol. Il faut y revenir cette semaine. Sophie Torlotte.
Se taire et laisser passer la tempête médiatique, c'est la solution choisie par la star à l'affiche de J'accuse, Jean Dujardin, qui a annulé dimanche sa venue au prestigieux journal télévisé de TF1. Emmanuelle Seignier, qui lui donne la réplique et est aussi la compagne de Roman Polanski, a également renoncé à venir défendre le film sur France Inter. Le malaise est donc palpable, même si Valentine Monnier, qui affirme avoir été violée par le réalisateur il y a 44 ans, ne porte pas plainte, les faits étant prescrits. Faut-il tourner la page, s'abriter derrière la présomption d'innocence, croire sur parole le cinéaste qui conteste les faits par la voix de son avocat, séparer l'homme de l'artiste ? Ce n'est pas la première fois en tout cas que le milieu du cinéma français manifeste son embarras sur le cas Polanski, immense cinéaste, mais homme accusé de viol à 5 reprises. Il y a 2 ans, les associations féministes s'étaient indignées de la rétrospective qui lui était consacrée à la Cinémathèque, puis Roman Polanski avait dû renoncer à présider la cérémonie des Césars.
Alors voilà une actualité grave. Frédéric Worms, cette fois nous sommes en France. D'abord le malaise, sans jeu de mots, sans vilain jeu de mots, à l'hôpital vous inspire comment? C'est plus qu'un malaise d'ailleurs.
C'est plus qu'un malaise et je crois qu'il faut d'ailleurs envisager les besoins d'une manière plus profonde, là aussi, que, je dirais, la seule urgence vitale. Bien sûr, quand un étudiant est amené à un geste extrême qui met en cause sa vie, quand il s'agit des urgences, on est toujours sur la question de l'urgence, dont je parle aussi, d'ailleurs, dans l'humanisme vital, qui est affronté toujours à cette question de l'urgence. Il faut d'abord aller aux urgences, et il faut des moyens pour que ces lieux, qui sont aussi des conditions de vie, répondent à ces urgences. Mais je crois qu'il ne faut pas s'y tromper. Ce qu'il faut aussi, c'est un peu un changement de modèle derrière. C'est-à-dire comprendre qu'investir dans l'hôpital, dans l'éducation, c'est pas seulement répondre à des urgences vitales, c'est vraiment un investissement global pour le lien social. On voit bien que l'hôpital aujourd'hui, autant et peut-être même plus que l'école en France, est le dernier lieu du contrat social profond, de la solidarité vécue et publique. Et puis, c'est les lieux aussi des conditions de l'avenir, des conditions de respect de soi, et c'est un lieu d'investissement économique, parce que si la santé se porte mieux, si les gens étudient, ont un avenir, un cadre, au fond, ça rejaillira aussi sur l'économie. Donc, je crois que aujourd'hui, on devrait non seulement adopter des mesures d'urgence, mais lutter contre, je dirais pas le libéralisme, mais à certaines interprétations ultra du libéralisme, qui en plus considère l'assistance comme une aumône, et parfois même comme un abus, etc. Je crois qu'au contraire, aujourd'hui, il faut considérer qu'il faut investir fortement dans ces domaines. Dans l'éducation, dans le soin, dans la justice aussi, parce que il faut changer le modèle, et il faut changer le modèle au nom du progrès d'ensemble. Et c'est là que l'humanisme vital intervient. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans l'urgence, mais c'est pour montrer que on se trompe parfois de priorité, et que la priorité, ça n'est pas seulement au fond un progrès économique pris comme but immédiat, mais les conditions humaines d'ensemble de ce progrès économique. Et ça me paraît fondamental.
Alors, ce qui me frappe aussi, c'est que les gouvernements, quels qu'ils soient, ont semblé dire qu'à l'hôpital, il y avait des gens qui étaient mus par l'abnégation, par une certaine abnégation, le sens du devoir et la passion de leur travail, et que finalement, ils ne se plaignaient pas, et ce n'était pas la peine de s'occuper d'eux. En quelque sorte, je schématise, bien sûr, mais là, c'est terminé cette époque aussi.
Hein. C'est pas terminé, la disposition morale à soigner est présente, la solidarité est présente, soutenue par des institutions publiques, heureusement, mais c'est pas une raison pour se défausser dessus, évidemment. Il faut qu'il y ait un cercle vertueux entre l'investissement économique, la reconnaissance publique de ces métiers qui sont fragilisés, même les enseignants d'ailleurs, et le dévouement moral. S'il n'y a pas ce cercle vertueux, ça va devenir un cercle vicieux, c'est-à-dire que l'absence de reconnaissance va en effet fragiliser les vocations. Et je crois, pour faire le lien sans artifice avec la question du féminisme, la question des violences à l'égard des femmes. Je crois que les démocrates, c'est toujours les gens qui en demandent un peu plus. Et ils ont raison. Et c'est pour ça que c'est un peu des casse-pieds. La démocratie est un régime de casse-pieds. C'est difficile, mais c'est comme ça. C'est des gens qui disent, je ne veux pas seulement vous empêcher de mourir à l'hôpital, je veux le faire de manière équitable et en plus dans des conditions de travail correctes, ce qui est fondamental. Je ne veux pas seulement vous faire l'aumône d'une bourse, mais vous donner un avenir. Et je ne veux pas seulement, lutter contre l'injustice en général, mais aussi contre les discriminations qui ont été cachées pendant très longtemps. Et par exemple, dans nos pays, le droit de vote des femmes ne date que de 1945, les injustices entre les hommes et les femmes. Donc la démocratie, en fait, résout des problèmes, mais en suscite de nouveaux. Et je crois vraiment que les violences faites à l'égard des femmes sont un lieu de progrès démocratique aujourd'hui. Je veux dire, leur pas les violences, elles même, évidemment.
La reconnaissance,
et la lutte contre...
Et la publicité, la vérité.
Exactement. Donc on ne peut jamais s'indigner qu'une violence faite à une femme deviennent publics. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner non plus qu'il y ait des coups de projecteur sur certaines violences devenues un peu symboliques. Peut-être que, au fond, dans certains cas, on peut dire ça va un peu loin, on ne va pas généraliser, etc. Il y a des cas aussi où il faut aller un peu trop loin pour la prise de conscience. Et je crois donc que vraiment la cause du féminine, au fond, aujourd'hui, est un de nos rares sujets de préoccupation et de progrès international, global, justement, comme l'environnement, comme d'autres, et qu'il faut créer simplement des institutions. Ce moment de crise où ça passe par des dénonciations médiatiques est un signe de transition démocratique.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, continuez à nous écrire. Un salut à Poséidon Migon, Bégoto, qui nous écoute avec fidélité au sud du Tchad, à Doba, sur la fréquence 96.2, nous précise-t-il. Bonjour à Guillaume à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Pierron à Boaké. Bonjour à Fabrice à Brazzaville, au Congo, à Prosper, qui est étudiant en droit à Lomé, au Togo. Bonjour également à Alpha à Conakry, en Guinée, bien sûr, à Hervé à Douala, au Cameroun, et à Faustin à Goma, en RDC.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour l'Afrique, Frédéric Worms, en trois étapes. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International, la violation de ces droits est de plus en plus importante en Guinée. Cette conclusion alarmante est détaillée dans un rapport qui entre dans le cadre de l'examen périodique des droits humains par les Nations Unies. Les autorités guinéennes parlent d'enquêtes insuffisamment vérifiées et recoupées. Une chose est sûre, il y a eu jeudi une nouvelle journée de protestation contre un projet de constitution qui pourrait permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Reportage de Carole Valade à Conakry.
Au point de départ, les militants du FNDC, surchauffés, débordent du rond-point de l'aéroport. L'ambiance est encore festive.
En 2015, il a prêté serment sur cette même constitution. Aujourd'hui, il est en train de le remettre en cause parce qu'il a l'idée de se pérenniser au pouvoir.
On est là en rouge, c'est la couleur du FNDC, donc c'est la couleur du combat pour défendre cette constitution.
Dans un communiqué publié la veille au soir, le gouverneur de Conakry avait autorisé la marche, mais sur un itinéraire différent, ralliant l'esplanade du stade du 28 septembre en proche banlieue. Abdoulaye Mousso, chargé de communication du FNDC.
Les autorités ne nous ont pas répondu dans les 48 heures qui suivent. Donc de façon tacite, les autorités ont accepté la manifestation demandée par le FNDC. Donc nous sommes derrière la loi, nous allons marcher de l'aéroport ici à l'esplanade du Palais du Peuple. Aucune autorité ne peut nous imposer des choses qui sont hors la loi.
Au point de divergence entre les deux itinéraires, les premières pierres sont lancées vers les forces de sécurité malgré l'intervention des services d'ordre du FNDC. Après trois sirènes de sommation, policiers et gendarmes dispersent le cortège à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs bus sont endommagés, un autre incendié. Des affrontements ont ensuite éclaté dans plusieurs quartiers de la banlieue et se poursuivaient encore en fin d'après-midi.
La situation est à suivre dans nos journaux. À noter aussi au Niger, cette fois, le retour au pays de l'opposant Amadou. Avant de vous retrouver, Frédéric Worms, partons pour le Soudan du Sud. Le tout jeune pays a un nouveau délai, 100 jours, pour faire avancer sa transition, nommer un gouvernement d'union et voir rentrer au pays le chef rebelle, Riek Machar. En attendant, plus d'un million et demi de personnes sont toujours déplacées dans le pays. La guerre a éparpillé les familles dans diverses régions. Au camp de déplacés de Mangatine, dans la capitale, Juba, le CICR a mis en place un programme de restauration des liens familiaux avec notamment un service téléphonique pour aider les gens à maintenir le contact. Reportage lundi de Sébastien Nemeth.
Là.
Ça y est, pour la première fois en 7 mois, Gedkoswal entend la voix de sa sœur réfugiée dans un camp en Ouganda.
Je suis très heureux. On avait fui pendant les combats. Mon oncle l'avait emmené en Ouganda, mais il est mort là-bas. Ma sœur est avec son mari et apparemment elle va bien. Je suis rassuré.
Ce service téléphonique proposé par le CICR est essentiel pour aider déplacés et réfugiés à maintenir le lien familial en attendant des jours meilleurs. Kaoumi Mohamed Kolo est l'un des responsables du programme.
Si on regarde le coût des communications, c'est très dur pour ces populations de réunir assez d'argent pour appeler. Pourtant, c'est essentiel de garder contact. Si le lien n'est pas maintenu, il peut être perdu. La famille peut continuer à bouger sans que d'autres ne soient au courant.
Beaucoup ne savent toujours pas où se trouvent leurs proches. Le programme du CICR comprend donc aussi un volet recherche. Oujumwon est l'un des représentants des 8500 déplacés de Mangatine.
C'est très important. Un enfant, par exemple, doit être auprès de ses parents. Si je ne savais pas où est mon frère, je serais très stressé. Si je le sais, ma vie est totalement différente. Ça donne l'espoir de pouvoir revivre ensemble un jour.
Sur la liste du CICR, on trouve plus de 4000 noms de personnes toujours recherchées par leurs proches.
Je termine ce voyage en bref avec une initiative originale, c'est la troisième étape, Frédéric, car la Gambie accuse la Birmanie de multiples violations de la Convention sur le génocide et dans une plainte déposée lundi devant la Cour internationale de justice, Banjul demande au juge de prendre des mesures urgentes pour stopper ce que les autorités du pays estiment être un génocide des Rohingyas. C'est intéressant, c'est la Gambie, un pays africain, qui porte plainte devant la Cour pénale internationale pour que cette Cour se saisisse, ce qu'elle va faire, parce qu'elle a décidé d'ouvrir une enquête sur la situation des Rohingyas en Birmanie. Nous sommes aussi dans votre sujet.
Exactement, dans une sorte de solidarité humaine et démocratique mondiale qui passe par des institutions, qui n'est pas une utopie, qui va construire peu à peu, de façon très frustrante, un monde habitable et humain. Il y a un autre point qui m'a beaucoup frappé, ça vous a frappé vous-même, je l'ai vu quand vous écoutiez ce reportage, c'est sur le Sud-Soudan.
Je l'ai choisi pour vous, figurez-vous, par rapport à ce que vous dites, dans cet humanisme vital et de la nécessité de communiquer. Je trouve intéressant que le CICR s'intéresse à la communication des individus.
Exactement, parce que de la biologie jusqu'à la politique, vraiment de la biologie elle-même jusqu'à la politique, on comprend que pour les humains, ce qui est vital, c'est pas seulement la survie individuelle, ni la survie collective, ni même seulement les institutions politiques, c'est les relations inter-individuelles. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de très important, et que les phénomènes des migrations, par exemple, tout autant que les violences politiques, et les déplacés nous le rappellent en permanence. Parfois, il m'arrive de me demander « qu'aurait dit Albert Camus ?» Qu'aurait dit Albert Camus des migrations ? Par exemple, si on regarde la peste, où ça se passe dans une ville, c'est plutôt une catastrophe d'enfermement, sur le modèle de l'enfermement. Pour lui, ce qui le captivait, c'était quand même la séparation. La femme du docteur Rieux est à l'extérieur de la ville, et la séparation fait partie toujours, c'est la double peine pour les humains. Aujourd'hui, on traite les migrants comme s'ils étaient des oiseaux migrateurs. Mais les êtres humains qui sont en exil, les réfugiés, sont aussi séparés, sont coupés de leur famille, font des choix extrêmement courageux. Nous devons considérer vraiment cette souffrance relationnelle et la prendre en compte. Et on sait que l'objet le plus précieux pour un exilé, c'est son téléphone portable, c'est aussi la langue. Dans les minima vitaux pour les migrants quand ils arrivent en Europe, c'est ce que font par exemple les étudiants quand ils les accueillent dans notre institution comme dans d'autres, c'est d'apprendre le langage pour pouvoir communiquer avec ceux qui les accueillent et parfois les rejettent. Je crois vraiment qu'il ne s'agit pas d'accueillir toute la misère du monde, comme disent certains. Il ne s'agit pas non plus de choses économiquement infaisables. Il s'agit là aussi des minima humains. Apprendre le langage, permettre de communiquer, permettre de surmonter la séparation. Ce que nous apprenons, c'est que les démocrates ne sont pas des bisounours qui passent par les bons sentiments. Ils comprennent au contraire que le bon sentiment de base est toujours précaire. Mais ils ne demandent pas non plus la lune. Ce que les gens demandent, c'est pouvoir se parler, précisément. Mmh. Et je crois que les tyrans ont toujours tort, parce que, en fait, c'est quand les hommes se parlent qu'ils respectent les lois et qu'ils font progresser les biens communs. Donc, voilà, je crois que l'Afrique, aujourd'hui, a vraiment pris la parole. Et nous, à l'École normale, par exemple, on lance un programme d'études africaines. Ça n'est pas sur l'Afrique seulement, c'est aussi avec...
Dont vous pouvez être sûr que nous allons parler.
Je l'espère. En tout cas, c'est l'idée de parler avec. Mmh. Il y a aussi cette idée qu'on ne peut pas parler des autres ou bien à la place des autres, mais seulement avec les autres. Je crois vraiment que cette prise de parole globale, progressive, difficile, perturbée, parfois empêchée, est la condition de la survie, y compris cosmique et disons, des vivants sur la planète.
Dans ce livre, donc, Frédéric Worms, intitulé « Pour un humanisme vital », il y a cette question centrale. Vous terminez avec cette question, mais elle traverse le livre.
Ce sont des lettres, d'ailleurs. Donc, c'est cette question de la relation. Mais,
exactement.
Mais, c'est imposé à moi et m'a permis d'écrire ce livre.
Quel monde laisserons-nous à nos enfants ?
Et je l'adresse à quelqu'un qui partage, à mon avis, cette question.
Ah, c'est pour ça que vous vous posez la question qui est au cœur de cet ouvrage et que je recommande, Pour un humanisme vital, lettre sur la vie, la mort et le moment présent. C'est un livre très précieux par les temps qui courent, on l'a bien compris, dans vos réactions à l'actualité par rapport aux événements du monde.
C'est moi qui vous remercie infiniment, Pierre-Edouard Deldic.
Merci Frédéric Worms. Une semaine d'actualité réelle. J'ai oublié de dire que ce livre était publié aux éditions Odile Jacob, grande maison d'édition s'il en est. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Horvensky. Nous vous proposons de nous retrouver demain pour le magazine Idée, un magazine que vous connaissez, Frédéric, et nous nous intéresserons aux séries, véritable phénomène, les séries, avec la philosophe Sandra Laugier, qui en est passionnée, qui vient d'écrire un essai sur le sujet. Demain, amateur de séries ou pas, d'ailleurs, je vous invite donc à écouter Idée, 17h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.